Violence dans la République avec Rosemann Charles.
Parler comme ça à partir d'une estrade très haute, j'aime bien être au même niveau. Et puis, j'ai quelquefois du mal à parler avec des gens que je ne connais pas. J'aime bien savoir un peu qui sont les gens que j'ai en face de moi, ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent en venant assister à mon petit discours. Mais je vais faire avec. Voilà, donc je vais parler un peu de pas mal de choses qui risquent de vous intéresser, en tout cas qui m'intéressent moi. Voilà, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Charles Rojman. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai été thérapeute, professeur de littérature française à l'université, secrétaire d'une princesse égyptienne, conteur, comédien, viticulteur, bio, quand même, maraîcher. J'ai fait des études de sociologie, de psychanalyse, d'agriculture, bio. Donc je suis quand même ici à ma place. Et je pense que nous avons quand même des intérêts communs, parce que c'est vrai que j'ai inventé une méthode que j'appelle une méthode de thérapie collective, une méthode de thérapie sociale, mais qui a beaucoup de points communs avec une agriculture respectueuse de l'environnement. Il y a quand même des principes communs. Alors, cette thérapie sociale, je la pratique aujourd'hui dans plein d'endroits où les gens ont du mal à vivre ensemble ou à travailler ensemble. En ce moment, je travaille en ex-Allemagne de l'Est, à Dresde, où je réunis dans des quartiers de la ville des gens qui sont favorables à l'accueil des migrants et des gens qui sont hostiles à l'accueil des migrants, hostiles à l'islam aussi, le mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, Pegida. Dans 15 jours, je pars aux États-Unis et là, je vais travailler sur les relations raciales, en ce moment un peu difficiles, entre blancs et noirs, et en particulier entre la police américaine et la population des quartiers difficiles, des ghettos de New York et de Philadelphie, Baltimore. J'ai beaucoup travaillé dans les banlieues françaises, dans beaucoup de quartiers, un peu partout, dans la région parisienne, dans la région lyonnaise. Ici, j'ai travaillé à Vaux-en-Velin, en particulier. J'ai travaillé à Toulouse, Marseille, Nice, un peu partout. Et j'ai écrit des livres. Les derniers livres sont parus cette année. Donc je vais vous parler de ces livres, puisque le thème de la conférence, c'était au départ le livre sur la thérapie sociale, qui d'ailleurs va être en vente certainement ici, je vais pouvoir le signer, chez Chronique Sociale. J'ai écrit un livre cette année qui s'appelle « Violence dans la République, l'urgence d'une réconciliation », édition La Découverte. Et j'ai écrit un livre en collaboration qui s'appelle « Savoir aimer dans des temps difficiles ». Alors, qu'est-ce que c'est que la thérapie sociale ? Je vais dire en un mot, j'ai dit tout à l'heure que c'était une méthode qui aidait à guérir dans des endroits où les gens ont du mal à vivre ensemble ou à travailler ensemble. Donc elle se pratique dans plein d'endroits, elle se pratique même dans des équipes, dans des organisations, dans des écoles. J'ai pas mal d'élèves que j'ai formés. J'ai une école de formation en France. D'ailleurs, il y aura bientôt une session de formation d'introduction au mois d'avril. Il y a une école en Allemagne, une école aux États-Unis, une école au Rwanda et enfin une école en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie sociale ? C'est une méthode de guérison collective où on part de personnes qui ont du mal à à vivre avec les autres et qui doivent pourtant vivre avec les autres. Je donne un exemple. Je forme actuellement au Rwanda des gens qui sont... C'est-à-dire, je forme des gens qui eux-mêmes vont travailler dans des villages et des prisons et des établissements scolaires et qui réunissent des personnes qui ont commis le génocide, qui ont commis des massacres, qui ont purgé leur peine de prison et qui doivent revenir vivre dans les villages à côté des gens dont ils ont tué la famille. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont, ils n'ont pas le choix, c'est leur village, ils ont purgé leur peine, mais ils reviennent vivre et ils ont par exemple tué la femme et les enfants d'un tel et ils sont obligés de vivre dans le même village. Donc vous voyez, c'est un peu ça, c'est, je vais en dire un peu plus, mais c'est une méthode qui aide les gens à dépasser les haines et les préjugés et la violence qui les opposent pour arriver à se parler, évidemment, à se rencontrer, mais à se rencontrer même dans le conflit. C'est-à-dire qu'en thérapie sociale, je peux en dire un petit mot, mais j'aurai pas le temps de développer beaucoup, mais en thérapie sociale, on cherche à transformer la violence en conflit. Sachant que la violence, c'est ce qui se passe quand on voit l'autre comme un monstre, comme quelqu'un d'entièrement mauvais, comme un inférieur, alors que dans le conflit, qu'on essaye de favoriser en thérapie sociale, l'autre, c'est un autre qui est comme moi, qui est un être humain, qui n'est pas un monstre, qui n'est pas un inférieur, qui n'est pas un animal, c'est un homme, une femme, et on n'est pas d'accord, il faut qu'on se batte. Et donc le conflit fait partie, et je vais vous expliquer pourquoi, le conflit aujourd'hui fait partie de la vie, on est obligé quelquefois d'être en conflit. On ne peut pas tous être semblables, on ne peut pas toujours être d'accord, on est obligé de se battre pour défendre nos points de vue, parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions de la vie, les mêmes conceptions religieuses, les mêmes conceptions sur la laïcité. On n'est pas semblables. Donc, aujourd'hui, très souvent, on est obligé de se défendre, on est obligé de se battre, mais l'important, c'est d'arriver à le faire sans violence. Et donc, en thérapie sociale, probablement vous aurez des questions là-dessus, on crée les conditions pour que la violence s'apaise et que lorsqu'il y a besoin, le conflit arrive. C'est-à-dire, on ne cherche pas le conflit. Si les gens ne sont pas en conflit, ben, on n'a pas besoin de nous, on n'a pas besoin de thérapie, tout va bien. Je veux dire, quand les gens s'entendent bien, eh ben, ils s'entendent bien, ils n'ont pas besoin de gens pour les aider. Là, il s'agit de gens qui ont besoin d'être aidés pour défendre leur point de vue, leur vision du monde, mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a trop de haine, il y a trop de méfiance, il y a trop de préjugés. Ce qui veut dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup aujourd'hui de diversité. On vit dans un monde de diversité, bien sûr, avec l'immigration, mais pas seulement. Les gens vivent côte à côte, les gens des campagnes, des villes, les gens de toutes origines vivent ensemble. C'est pas un problème, la diversité. Le problème, c'est la violence. Le problème, c'est quand il y a de la violence dans les rapports entre les gens. Et la violence, ce que j'ai fini par découvrir après pas mal d'expériences et d'écoutes d'un peu tout le monde partout, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, la violence, c'est pas seulement la violence physique, c'est pas seulement la violence verbale, la violence, c'est pas seulement la maltraitance, de faire du mal aux autres, la violence, c'est aussi l'humiliation. La violence, c'est l'abandon, l'indifférence, la culpabilisation, le mépris. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la violence, elle existe dans les relations entre les gens, elle existe partout sous des formes différentes, et il n'y a pas que la violence contre les autres, il y a aussi la violence contre soi-même. C'est-à-dire, soi-même, on peut se mépriser, ne pas avoir confiance en soi, ne pas oser parler parce qu'on n'a pas fait d'études, et penser qu'on est moins que rien. C'est de la violence. La violence, c'est aussi s'abandonner, ne pas s'occuper de sa santé, ne pas s'occuper de son corps, ne pas s'occuper de ses dents, ne pas s'occuper de son avenir. La violence, c'est aussi la drogue, c'est aussi l'alcoolisme. Donc, vous voyez, ce qu'on voit en thérapie sociale, c'est le côté central de cette question de la violence. C'est-à-dire, quand ça va mal entre les êtres humains, quand ça va mal dans un couple, quand ça va mal entre parents et enfants, quand ça va mal dans une entreprise, dans une école, entre élèves et professeurs, dans une équipe, dans une entreprise, c'est parce qu'il y a de la violence. Sous des formes diverses, encore une fois, humiliation, abandon, culpabilisation, maltraitance, il y a toutes sortes de formes de violence, il y a de la violence. Et pourquoi il y a de la violence? Alors ce que, encore une fois, avec mon expérience, j'ai découvert, c'est que, et là vous allez peut-être être surpris, c'est que nous avons tous, sans exception, été victimes de violence. C'est-à-dire que nous avons été victimes de violence dans nos propres familles, que nous avons été victimes de violence dans la société, et que nous sommes toujours victimes de violence aussi dans la société. Alors donc, je me suis aperçu, en parlant avec, en écoutant surtout, des gens de tout niveau hiérarchique, de tout milieu, de tout pays, c'est qu'il y a toujours, et ça c'est pas, je dis pas ça pour accuser nos familles, nos parents, mais il y a toujours des moments dans notre existence, d'abord d'enfants, où nous avons été dévalorisés, humiliés, soit par un parent, soit par un grand frère ou une grande sœur, que nous avons été culpabilisés par des parents ou une mère dépressive qui dit que si elle est dans cet état-là, c'est de notre faute, ou bien nous avons été abandonnés, nos parents ne sont pas toujours occupés de nous suffisamment, ou nous avons été carrément maltraités, victimes de coups, par exemple, ça arrive, victimes d'inceste, et donc nous avons été blessés à des degrés divers. C'est-à-dire que si vous êtes ici dans cette salle, et moi aussi, c'est que nous avons été victimes de violences qui n'étaient pas aussi graves que on aurait pu que certaines personnes ont été victimes. Certaines personnes ont été victimes de tellement d'abandon, de tellement de maltraitance, de tellement d'humiliation que elles ne sont pas là. Elles sont dans des hôpitaux psychiatriques où elles sont mortes d'overdose, où elles sont criminelles. Donc ça veut dire que ce à quoi il faut faire attention, et c'est ce qu'on voit en thérapie sociale, c'est que même si nous n'avons pas été victimes de violences extrêmes, nous avons été victimes quand même de violences. Et ce qui se passe, c'est que ces violences, elles nous amènent dans des situations de crise, dans des situations où nous avons peur, dans des situations où nous sommes dans une impasse, à être nous-mêmes violents avec les autres sans nous en rendre compte. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes capables de maltraiter les autres, nous sommes capables de les culpabiliser, nous sommes capables de nous voir des victimes des autres et de voir les autres comme des gens qui nous font du mal, même si ce n'est pas vrai. Nous-mêmes, nous sommes capables d'abandonner. Moi, par exemple, qui étais victime d'abandon, j'ai eu longtemps tendance, lorsque j'avais des difficultés avec des gens, à tout simplement à les abandonner, à me dire puisque ces gens me font des difficultés, ils ne m'intéressent plus, ils n'existent plus pour moi. Et ça, vous retrouvez ces violences dans les écoles. Par exemple, lorsque un professeur dit à un élève avec qui il est en difficulté, et il lui dit « Pour moi, désormais, tu n'es qu'une ombre, tu n'existes plus. » Ou lorsque des professeurs, des éducateurs qui n'arrivent pas à travailler parce qu'ils se sentent impuissants vis-à-vis de certains élèves, les abandonnent tout simplement. Alors je ne dis pas ça pour culpabiliser les enseignants, il y en a probablement parmi vous, des enseignants qui font ce qu'ils peuvent, mais c'est pour dire que lorsqu'on travaille en thérapie sociale, on essaye d'aider les gens à voir non pas à ne pas seulement se voir comme des victimes des autres, c'est-à-dire si ça va mal pour moi, bah, c'est la faute des autres, mais avoir aussi notre propre responsabilité. Et notre propre responsabilité, on la voit si on connaît sa propre violence. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire de façon générale sur ce travail de thérapie sociale, qui est un travail, encore une fois, qu'on fait avec des groupes et avec des gens qui ont besoin de sortir de la mouise et de trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont dans la vie. Et en thérapie sociale, on voit que les problèmes qui se posent aux gens viennent d'eux-mêmes, viennent de leur histoire personnelle, de leurs blessures et de leur violence, mais on voit aussi, et c'est pour ça que ça s'appelle thérapie sociale, parce qu'on voit aussi que la société, la vie en société, nous amène aussi des stress, des peurs, qui contribuent aussi à nous mettre en difficulté avec les autres. C'est-à-dire des humiliations. Les humiliations, c'est pas seulement dans la famille qu'on les a. On les a aussi à l'école, on les a aussi dans une boîte, dans une entreprise, on les a dans une vie de quartier. Les maltraitances, on peut les avoir en vivant dans un quartier comme ce que j'ai connu au Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin ou d'autres quartiers. On peut les avoir dans une entreprise. Le harcèlement, tout ça, c'est de la violence et c'est de la maltraitance. Alors maintenant, je voudrais vous dire quand même un mot, pas seulement sur le point de vue, personnel, mais aussi sur le point de vue collectif et social. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque pas très facile. Je ne parle pas seulement du chômage, de la pauvreté, des risques de terrorisme. Je parle de toutes sortes d'autres choses. Premièrement, la plupart d'entre nous, nous ne nous sentons pas protégés par les gens qui sont censés nous protéger, c'est-à-dire les élites politiques, médiatiques, c'est-à-dire, je vais dire une évidence que tout le monde connaît, il y a aujourd'hui une perte de confiance dans les élites politiques et médiatiques. Pas seulement de gauche, pas seulement le Parti Socialiste, mais je veux dire, globalement, on le voit à la fois à travers les chiffres de l'abstention et le nombre de votes, la quantité de votes pour des partis extrémistes, on voit bien qu'il y a une perte de confiance. On voit bien qu'il y a une inquiétude aujourd'hui sur l'identité et l'identité de gens qui n'ont pas autre chose pour se raccrocher que leur identité collective dont ils ont l'habitude et qui ont peur d'une multiculturalité qui leur est en quelque sorte imposée. On voit bien qu'il y a une opinion aujourd'hui qui est divisée. On voit bien qu'il y a en Allemagne, puisque je travaille aussi en Allemagne, mais je travaille aussi dans d'autres pays européens, un peu partout, on voit bien que l'opinion est divisée. Il y a une opinion, une partie de l'opinion qui pense que, je dirais, le vrai problème de nos sociétés, c'est le chômage, c'est les problèmes socio-économiques, et par exemple, que la question de l'islam ou la question de l'immigration, c'est pas le vrai problème. Et puis il y a une autre partie du pays qui pense le contraire, qui pense que le vrai problème, c'est l'islamisation, c'est l'arrivée trop nombreuse de migrants qui viennent de pays musulmans, et je le sais vraiment parce que j'ai fréquenté toutes sortes de milieux, la raison pour laquelle beaucoup de gens votent pour le Front National, c'est pas pour des raisons, je dirais, c'est pas à cause de l'euro, c'est pas à cause des problèmes socio-économiques, c'est parce qu'ils ont peur, autrefois des Arabes, mais aujourd'hui des musulmans. Et donc, on voit qu'il y a une situation aujourd'hui qui est très difficile, c'est qu'on a une France coupée en deux. On a une France, je dirais presque 50% à 50%, de gens qui pensent pas du tout la même chose sur des problèmes essentiels de la vie collective. Et ça, c'est très dangereux et il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Violence dans la République, l'urgence d'une réconciliation ». Parce que ces deux parties qui existe aussi en Allemagne, au Danemark, en Suède, se diabolisent mutuellement. Mutuellement se disent vous êtes des mauvais. Et les autres disent vous êtes des naïfs, vous voyez pas ce qui se passe. Et puis les autres disent vous êtes des racistes. Et ces deux parties de la France, qui sont des gens comme vous et moi, qui sont des employés, des ouvriers, des jeunes, des retraités, etc., ce sont des gens qui commencent à se haïr parce qu'ils ont des visions du monde complètement différentes. Et ça, je vais vous dire pourquoi c'est dangereux, parce que c'est une guerre civile. C'est une guerre civile dans les têtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de guerre civile. On n'est pas en train de se battre dans les rues de Lyon ou de Paris. Mais dans les têtes, les gens sont dans une guerre civile. Et ça, c'est très dangereux parce que, comme le disait quelqu'un que je connais, qui est directeur du Centre économique et social, il disait « La France est en état de fragilité. Nous vivons dans une société fragile et il suffirait de graves événements traumatiques pour nous faire basculer dans des conflits beaucoup plus graves. » Alors, je vais vous donner quand même, en dehors de ça, une petite idée des raisons pour laquelle, en dehors des familles, en dehors de ce qui se passe dans les familles, des violences, de l'humiliation dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'abandon, etc., qui nous fragilisent aussi en tant que personnes, et qui font que nous avons du mal dans nos relations de couple, dans nos relations amicales, dans nos relations dans des entreprises ou des écoles, dans des quartiers aussi, il y a aussi quand même des causes collectives. C'est pour ça que je parle de thérapie sociale, parce que les raisons de notre malaise ne viennent pas que de notre famille. Les raisons de notre malaise viennent aussi de ce qui se passe dans la société. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la société ? Il se passe que nous vivons une quadruple crise dans la société d'aujourd'hui. Quatre crises principales. Et ces quatre crises créent des peurs dans la société qui se transforment en violence. Alors, je vais vous dire quelles sont ces quatre crises. La première crise... Alors, vous savez qu'en chinois... On dit toujours, c'est bien connu, qu'une crise, c'est à la fois un danger et une opportunité. C'est-à-dire, l'idéogramme chinois qui signifie crise est un mélange de danger et d'opportunité. Alors, je ne veux pas vous affoler, je veux vous montrer que ces crises sont dangereuses, mais que ces crises sont aussi une occasion de renouvellement et de transformation de notre vie sociale. La première crise, c'est une crise du lien social. C'est-à-dire que nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, dans une époque de diversité. Nous vivons avec des gens avec qui nous n'avons pas décidé de vivre. Nous vivons plus dans des villages avec des gens qui se connaissent. Nous vivons avec des inconnus. Dans les grandes villes, nous vivons dans les quartiers des grandes villes, nous vivons avec toutes sortes de gens. Et ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, forcément, qui n'ont pas la même religion, ce sont des gens qui peuvent nous faire peur, nous inquiéter. Encore une fois, c'est pas une question de... On dit toujours la peur de l'autre. Ça, c'est du baratin. La peur de l'autre, ça n'existe pas. Si l'autre que je rencontre dans le métro, c'est un moine bouddhiste qui est très différent de moi, avec sa tonsure, avec sa robe orange, j'ai pas peur de l'autre, parce que je me dis... Il n'y a pas de danger. Donc l'autre qui peut nous faire peur, l'autre avec qui nous sommes en difficulté, c'est celui qui peut nous faire violence, que ça soit réel ou que ça soit imaginaire. Donc le problème, c'est ce lien social. Et comme ce lien social aujourd'hui est en crise, parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de méfiance, de haine et de racisme réciproque, ce lien social qui est en crise crée beaucoup de peur des voisins, des autres peuples, etc., des migrants, des racistes, parce que il y a des gens qui ont peur des migrants, mais il y a des gens qui ont peur des racistes. Il y a des gens qui ont peur des étrangers, et il y a des gens qui ont peur des gens du Front National. Donc c'est la peur de... C'est quand même cette peur de celui qui, est pour nous, représente un danger. Et cette peur, elle se transforme en violence. C'est-à-dire, elle se transforme en xénophobie, en racisme, racisme réciproque. La France n'est plus un pays avec des Dupont-Lajoie qui sont racistes, avec des pauvres ouvriers arabes. La France est un pays où tout le monde est raciste, peut être raciste avec tout le monde. Un noir peut être raciste contre des arabes contre des blancs, des français contre des arabes contre des juifs, etc. Nous vivons de plus en plus dans une société qui risque d'être une société multiraciste. Bon. Alors donc ça crée cette xénophobie généralisée, mais ça crée aussi du communautarisme. C'est-à-dire les gens, au lieu de se mélanger, de plus en plus se ghettoïsent, vivent dans leurs écoles, dans leurs milieux, dans leurs quartiers, et en fonction de la religion, en fonction de l'origine, etc. Et donc il y a une communautarisation aujourd'hui de la vie sociale. Cette communautarisation, c'est un danger, parce que ça peut créer des séparations radicales entre les gens qui peuvent déboucher sur des situations comme on a connu au Liban, en Yougoslavie, etc. Donc c'est une situation dangereuse. En même temps, c'est une opportunité. Parce que c'est une opportunité si on sait aider les gens à se rencontrer, ce que je fais avec mon travail de thérapie sociale, si on aide les gens à se rencontrer, si on les aide à être en conflit, à se parler sans violence, on pourra créer une société du vivre ensemble. Donc c'est possible, mais à condition qu'on ait des espaces de vie démocratique, qu'on ait des espaces où les gens peuvent s'engueuler, peuvent se combattre, mais en restant ensemble. Donc cette crise du lien, elle peut être dangereuse, mais elle peut être aussi une opportunité de créer une nouvelle société. Maintenant, on a une crise du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à savoir ce qu'est le sens de la vie. Et ça crée des peurs, de l'inconnu, des peurs de... autrefois, on croyait dans le progrès, on n'y croit plus, on croyait dans la science, on ne croit plus que la science va obligatoirement nous apporter le bonheur. Donc, on est, si vous voulez, dans une situation où on risque de trouver une solution de violence qui s'appelle le fanatisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans différents milieux, il y a du fanatisme. C'est-à-dire, ça peut être un fanatisme, je ne vais pas préciser, mais ça peut être un fanatisme chez les musulmans, qui peuvent être tentés par des idées qui viennent du salafisme, comme c'est le cas pour une partie de la jeunesse qui vit dans les quartiers populaires. Ça peut être un fanatisme écologique, ça peut être un fanatisme... donc le risque aujourd'hui, c'est aussi le fanatisme. Mais en même temps, l'opportunité de cette crise de sens, c'est de nous aider à se dire qu'il faudrait qu'on arrive à recréer une conception de la vie qui réunit les êtres humains. Une nouvelle conception de la vie qui n'est pas forcément religieuse, qui n'est pas forcément la religion de l'islam, du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, mais une conception dans laquelle on va tous ensemble lutter contre la haine, lutter contre la violence, lutter contre les propagandes, les illusions, etc. C'est-à-dire, c'est ça le travail de thérapie sociale, c'est de créer du sens ensemble. Troisièmement, troisième crise. Alors j'ai dit la crise du lien social, la crise du sens. Maintenant, nous avons une crise de l'autorité. Alors, ce serait très long d'expliquer ça, mais l'autorité aujourd'hui ne peut plus fonctionner comme avant. Le père qui a toujours raison, le chef qui a toujours raison, ça ne marche plus. Les enfants savent des choses que les adultes ne savent pas. Les gens de terrain avec qui j'ai travaillé dans les HLM, ils savent des choses sur ce qui se passe que le responsable HLM dans son bureau ne sait pas. On voit bien qu'aujourd'hui, l'autorité n'a plus dans nos sociétés, n'a plus la toute-puissance On peut plus battre les enfants. Je dis pas que c'était bien de battre les enfants. Les enseignants peuvent plus battre justement leurs élèves. Ils ont du mal à les menacer. Ils peuvent pas les. Ils sont obligés de les garder. Si vous voulez, aujourd'hui, l'autorité, elle a plus les moyens de la force qu'elle avait autrefois. Et donc, on a une crise de l'autorité. Les femmes ne sont plus soumises dans nos sociétés aux hommes. Les gens de terrain ne croient plus que leurs responsables sont garants que tout se passera bien, parce qu'ils voient sur le terrain ce qui se passe. Je veux dire, un gardien HLM, il sait des choses sur ce qui se passe dans son quartier que le responsable sait pas. Et donc, quand le responsable lui dit quelque chose, le gardien, il rigole, il dit « il y connaît rien, mon chef ». Et donc, ça veut dire qu'il y a une crise de l'autorité qui est dangereuse parce que ça peut créer deux choses. Ça peut créer de la rébellion contre l'autorité et ça peut créer un retour à l'autorité ancienne. C'est-à-dire, on le voit en particulier dans certaines sociétés, un retour à l'autorité de l'homme, de l'homme sur la femme, un retour à l'autorité du père sur les enfants, un retour à l'autorité du chef, à la dictature, etc. Donc il y a un danger. L'opportunité qu'on cherche en thérapie sociale, c'est une nouvelle relation à l'autorité. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à créer une nouvelle relation à l'autorité où l'autorité reste l'autorité, l'autorité des parents. Les parents peuvent pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, ils doivent les protéger. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'une autorité, aujourd'hui, peut être remise en question, on peut discuter avec elle, on peut voir avec elle comment mieux faire, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait créer une nouvelle relation à l'autorité, où l'autorité reste l'autorité, mais où il y a un dialogue avec l'autorité. Et ça, c'est en germe aujourd'hui dans nos sociétés. C'est en germe, mais en même temps, il y a le danger contraire. Il y a la tentation que si on n'y arrive pas à créer cette nouvelle relation à l'autorité, il y aura trop de violence, de rébellion, trop de divorces dans les couples, trop de séparations familiales, trop de crises dans les entreprises, dans les écoles, entre élèves et professeurs, entre élèves et eux-mêmes, etc. Trop de violence. Donc ça veut dire que il faut apprendre une nouvelle relation de l'autorité. Il faut que les enseignants sachent créer une nouvelle relation avec leurs élèves, que les patrons sachent créer une nouvelle relation avec leurs subordonnés, etc., etc. Qu'il y ait un nouveau type de relation entre parents et enfants, entre les hommes et les femmes. On a besoin aujourd'hui de cette nouvelle relation. Enfin, dernière crise aujourd'hui, c'est la crise du travail. La crise du travail et de l'école. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a des tas de métiers qui disparaissent et qui vont encore plus disparaître. On a fini avec le monde rural en partie. Ensuite, le monde ouvrier les métiers du monde ouvrier ont été supprimés par la mécanisation. Maintenant, c'est le monde des services, les secrétaires. Il y a presque plus de secrétaires à cause de l'informatique, etc. C'est-à-dire que l'avancée de la technologie a fait disparaître beaucoup de métiers. Et du coup, il y a une crise parce que beaucoup de gens ont peur d'être pauvres, de devenir pauvres, ont peur de la chute sociale, ont peur de la chute sociale pour leurs enfants. Et ça crée une violence qui est une violence, je dirais, le contraire de la solidarité, c'est-à-dire l'égoïsme, chacun pour soi. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la criminalité dans les quartiers, ça peut aller jusqu'à la corruption. Et on voit bien aujourd'hui dans le monde entier est menacé par cette violence du chacun pour soi. La violence qui peut aller jusqu'à la criminalité. On le voit dans les quartiers, avec les trafics de drogue, mais on le voit aussi au plus haut niveau de l'échelle sociale, avec la guerre de tous contre tous, une compétition terrible. Et ça demande aussi que les gens deviennent plus créatifs. Ça, c'est l'opportunité, deviennent capables d'inventer plus leur vie, de faire des vies qui correspondent plus à leurs besoins, de plus être dépendants d'un travail qui est un travail pénible. Ça demande vraiment une transformation de notre vision du travail et de notre vision de l'école. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Simplement, je voudrais laisser de la place pour la discussion, parce que j'amène beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui seront précisées dans les livres que vous devez avoir. Je pense qu'il y a, j'aurai l'occasion de signer le livre sur la thérapie sociale qui est en vente. On vous dira où. Grosso modo, si vous voulez, cette thérapie sociale que je pratique, je forme des gens à être capables de le faire. Je forme des enseignants, je forme des policiers, des travailleurs sociaux, je forme des élus aussi. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui de cette nouvelle éducation. Nous avons besoin aujourd'hui d'une éducation au vivre ensemble qui passe un peu par tout ce que j'ai dit et qui est avant tout un travail qui va nous éviter d'être dans des relations de violence dans nos couples, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans notre vie sociale. Et pour moi, ce travail de thérapie sociale qu'on peut apprendre, ça peut être aussi un métier. D'ailleurs, j'ai des écoles et des gens qui pratiquent ce métier et qui vont travailler dans différents pays, qui vont travailler dans des quartiers, dans des entreprises, dans des écoles, qui forment des coachs, qui forment toutes sortes de gens. Donc c'est un apprentissage qui peut être un métier. C'est un métier qui s'apprend. Mais c'est aussi une éducation personnelle. C'est une éducation c'est presque une éducation civique. Mais c'est pas une éducation civique où on nous dit comment il faut que nous soyons. On n'est plus dans une époque, justement, où il y a une autorité qui sait pour nous et qui nous dit la morale, qui nous dit comment nous devons nous comporter, etc. C'est plutôt une éducation où on apprend, on est accompagné à dépasser les obstacles qui nous empêchent d'être heureux, qui font que nous n'arrivons pas à vivre en couple, qui font que nous n'arrivons pas à être amoureux, à être aimé, qui font que nous n'arrivons pas à être heureux de notre vie, qui font que nous n'avons pas confiance en nous, qui font que nous avons des difficultés à travailler avec des collègues, que nous avons des difficultés à travailler avec la hiérarchie, avec notre hiérarchie, qui fait que nous avons du mal à diriger des équipes lorsque nous sommes une hiérarchie, qui fait que nous avons du mal aujourd'hui à trouver le sens d'une vraie révolution humaine. Une vraie révolution humaine qui partirait de la base, de nous tous, et qui nous aiderait à transformer, je dirais, une vie politique qui nous satisfait pas du tout, une vie politique qui est dérisoire, une vie politique qui est, qui est commandée par des principes qui ne sont plus valables aujourd'hui. Une vie politique dans laquelle les responsables politiques sont pas plus méchants que nous, mais eux aussi sont dans la violence, sont dans l'égoïsme, sont dans le cynisme. Vous savez, beaucoup de gens dans nos sociétés sont dans un état de dépression. C'est-à-dire, ils n'ont plus de projet, ils ne voient plus le sens de leur vie, ils sont dans un état de dépression. Eh bien, quand on est riche et qu'on a une position élevée socialement, qu'on est par exemple un responsable politique, et j'en ai connu, on n'est pas dans la même dépression, on est dans le cynisme. C'est-à-dire, le cynisme, c'est de toute façon, j'ai une vie avec plein d'avantages. J'ai une retraite, comme la plupart de nos hommes politiques, à la fin de ma vie, et même à la moitié de ma vie, j'aurai une retraite superbe. Tout va bien pour moi, mais la vie n'a pas de sens. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans cet esprit cynique. Pareil pour la deuxième maladie sociale, qui est l'égoïsme social, chacun pour soi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous rend malades, le fait que nous sommes obligés de nous battre contre les autres. Et puis, il y a la troisième maladie sociale, et je finirai là-dessus, c'est ce que j'appellerais la victimisation. La victimisation, c'est-à-dire, ça va jusqu'à la théorie du complot. C'est-à-dire, si ça va mal pour nous, c'est pas de notre faute. C'est pas parce que nous y arrivons pas. C'est parce que là-haut, quelque part, il y a des gens qui nous rendent la vie impossible. Et ça, c'est très dangereux. Parce que ça, ça veut dire que ça nous enlève l'espoir de nous en sortir. Parce que l'espoir de nous en sortir, il passe par ce que nous pouvons faire, nous, à l'endroit où nous sommes. Tant que nous pensons que notre problème vient uniquement des autres, même si les autres ont leur responsabilité, bien sûr qu'il y a la finance internationale, bien sûr qu'il y a le capitalisme, bien sûr que tout ça existe. Mais si on se contente de dire « si ça va mal pour moi, c'est parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a des discriminations, parce qu'il y a le capitalisme, parce qu'il y a la finance internationale, etc. », on ne s'en sortira jamais. Parce que on ne peut pas lutter. Cette vision du monde nous rend complètement impuissants et fait que, un jour ou l'autre, nous risquons de basculer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la violence. Donc c'est à nous de nous soigner pas parce que nous sommes malades, méchants, mauvais, mais c'est parce que nous sommes encore une fois blessés et que nous réagissons. Nous avons besoin de guérir, nous avons tous besoin de guérir, et nous avons besoin de guérir ensemble pour transformer le monde qui est autour de nous. Et le monde qui est autour de nous, c'est pas le monde, la Terre et la galaxie. Le monde qui est autour de nous, c'est nos écoles, c'est nos entreprises, c'est nos quartiers, c'est notre famille, c'est nos relations avec nos enfants. C'est tout ça que nous devons transformer pour être plus heureux et pour être, je dirais, actifs ensemble dans un monde aujourd'hui qui est dangereux, mais qui est plein d'opportunités et qui peut être plein d'espoir. Merci beaucoup.
Alors, bonjour, je voulais rappeler que la conférence est enregistrée et que l'enregistrement est au stand du CRANCRA au B102. Donc là, si vous avez des questions...
Je voulais dire simplement que j'ai des plaquettes là sur... Il y a une formation qui aura lieu en avril et puis en septembre. Donc s'il y en a qui sont intéressés, j'ai des plaquettes. Et puis il y a les livres... Je ne sais pas où vont... Pour les ventes de livres, d'accord. Alors c'est au fond. Bravo, merci. Alors, question, monsieur.
Bonjour, merci pour toutes ces informations sur la violence que nous subissons. Je viens, moi, de la Savoie, où en Savoie, nous subissons la violence. La violence de nos entreprises, la violence en général, comme celle que vous avez détaillée en général. Vouloir me trouver mieux, eh bien, oui, c'est ce que nous cherchons tous les jours. Tous les trois jours, nous sommes dans la rue pour essayer d'améliorer, de pointer du doigt les problèmes. Et il s'avère tout simplement que depuis fort longtemps, besoin de guérir, oui. En transformant autour de nous, comment ? On essaye, mais en face, ils sont structurés pour déstructurer tout, pour nous poser problème sur problème derrière problème. Et les moyens, ils sont où ? Vous nous les posez à nous. J'ai l'impression d'entendre que vous nous les posez à nous. Comment faire ? Il nous faut des forces et des moyens. Et les portes sont fermées.
Oui. C'est ce que j'appelais le risque de victimisation, excusez-moi, c'est-à-dire le risque de dire c'est pas nous qui pouvons faire, c'est d'autres gens qui peuvent faire. C'est un risque. Ça ne veut pas dire, attendez, ça ne veut pas dire que les gens dont vous parlez n'ont pas besoin de changer, mais la question c'est comment ils vont changer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les gens ne travaillent pas ensemble, ils travaillent par petits groupes, par des clans. Et c'est en réunissant les gens, en les faisant, moi je l'ai fait cette expérience dans beaucoup d'endroits, en créant des forces communes entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies, mais qui ne se rencontrent jamais et qui se battent, au lieu de se battre contre ceux qui leur font du mal, ils se battent entre eux. J'ai fait l'expérience, je vais vous donner un exemple pour bien faire comprendre. J'ai travaillé dans un quartier d'Alsace. le thème du travail, c'était d'améliorer la vie du quartier. Et la moitié des gens étaient des électeurs alsaciens qui votaient Front National. L'autre moitié, c'était des Arabes et des Turcs. Et ces gens-là, les deux, se battaient les uns contre les autres. Les uns traitaient les autres de racistes, les autres disaient « vous êtes tous des délinquants, des criminels. Vous êtes tous des Arabes, et chez les Arabes, les jeunes Arabes, tout ça, vous faites des trafics, etc. C'est à cause de vous que tout va mal. » Et les autres disaient « c'est à cause de vous que tout va mal. » Et donc, on s'est aperçu, en fait, que beaucoup de choses allaient mal, non pas entre eux, mais globalement dans la manière dont le quartier était organisé, avec les élus, avec etc. Et ces gens-là ont appris à se connaître, ont appris et se sont mis à travailler ensemble, alors qu'ils étaient Front National, raciste, entre guillemets. Et, oui, Front National, raciste, entre guillemets. Et les autres étaient d'origine arabe et turque. Et ensemble, ils se sont mis à bouger pour changer des choses dans leur quartier, pour faire pression sur les élus, faire pression pour les responsables des entreprises, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on dit « nous, on peut rien faire, c'est là-haut qu'ils doivent changer », on est foutu. On est foutu, on fera jamais la révolution comme ça. Parce que des révolutions comme ça, on en a connu. On a remplacé les chefs et on a mis d'autres chefs à leur place. Ça, c'est toute l'histoire du XXe siècle. On a cru à des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment créer quelque chose dans lequel, y compris des gens là-haut, se mettent aussi à bouger et à changer. Et voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire une transformation collective en ne disant pas « c'est les gens qui sont sur le terrain qui doivent changer ». C'est pas ça. Mais c'est on ne peut pas attendre que les autres changent. Si vous voulez, l'idée de base de la thérapie sociale, c'est qu'on ne changera jamais les autres. Les autres, on ne peut pas les changer. Les gens qui vous font du mal, vous ne pouvez pas les changer. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous et votre capacité d'être actif et d'être combattant, de combattre avec les autres, avec d'autres. Et c'est ça la révolution. C'est pas la révolution, c'est pas décapiter les chefs et après, vous savez, la révolution, la terreur, on a connu, on a décapité les aristocrates et puis après, on a eu la même chose à la place. C'était pas les mêmes. On a attaqué les capitalistes et puis après, on a eu les chefs communistes qui avaient les mêmes, comment dire, le même égoïsme ou la même cupidité que les autres. C'est pas par hasard d'ailleurs qu'en Russie, la plupart des oligarques, des gens qui font les grosses affaires et qui sont milliardaires, c'est des anciens chefs du Parti communiste. Voilà. Et donc ça ne servira à rien. Donc je pense qu'il faut provoquer les changements déjà en nous-mêmes, mais c'est pas tout seul, c'est avec les autres. C'est voir avec qui nous pouvons travailler à changer le monde et à changer le monde autour de nous. D'autres réactions ou d'autres questions?
Vous avez peut-être un peu donné des éléments de réponse déjà, mais j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des étapes, en fait, que certainement vous développez dans vos bouquins, mais que vous auriez peut-être pu donner un peu, pour passer justement de cette violence à un conflit non violent, en fait.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui peut désamorcer, en fait?
Je vais vous dire, ce qui désamorce, c'est la confiance. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Je travaille en ce moment à Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est. À Dresde, vous savez qu'il y a un mouvement qui s'appelle Pegida, qui est un mouvement hostile à l'islam et aux migrants. Et il y a des gens à Dresde qui sont des gens qui vont aider les migrants, qui ont des panneaux qui s'appellent Welcome, bienvenue aux réfugiés, etc., etc. Je les mets ensemble. Alors, si je les mets ensemble, évidemment, ils vont mutuellement s'agresser, ils vont mutuellement... Ça va être violent. Bon. Donc, il faut créer un cadre pour que ces gens-là aient de nouveau confiance en tant qu'êtres humains les uns avec les autres. Donc il y a un processus qui va les amener à se faire confiance. Et quand ils sont dans la confiance, là ils peuvent se battre. Et ils vont se battre sans violence. Et je ne peux pas détailler tous les moyens, mais ils sont dans le livre, hein, c'est expliqué dans le livre. Mais si vous voulez, la base c'est la confiance. C'est-à-dire, quand je suis avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je peux m'engueuler avec lui. Je peux l'attaquer. Je peux. Moi j'ai organisé des rencontres entre des policiers nationaux, policiers municipaux et puis des médiateurs de quartier, etc. À partir du moment où ces gens-là, dans un processus, petit à petit, commençaient à se faire confiance, ils ont commencé à parler des vrais problèmes, avec des conflits. Vous voyez ? Et, oui, ce qui se passe habituellement, c'est que les gens ne sont pas en conflit. Ils ne se rencontrent même pas. Les jeunes jettent des cailloux et des réfrigérateurs du haut des... ou alors maintenant des kalachnikovs sur les policiers. Les policiers font de l'agression verbale ou même physique contre les jeunes, etc. Les gens ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas de leurs problèmes, de pourquoi ils ne sont pas d'accord. Voyez ? Et moi, je l'ai fait. Ça apporte énormément que les gens arrivent à être en conflit, arrivent à se battre. L'objet, c'est pas de calmer les gens. L'objectif, je veux dire, c'est de se battre, apprendre à se battre. Mais on se bat pas contre des monstres. On se bat contre des êtres humains. Voyez ? Et si on pense qu'on a des êtres humains en face de soi, on peut à ce moment-là commencer à se battre et trouver des réponses. On devient intelligent parce qu'on commence à écouter l'autre. Et on s'aperçoit que même quand les gens ont des idéologies différentes, ils ont tous, dès qu'ils arrêtent d'avoir le masque de la provocation, par exemple, quelqu'un qui vote, un électeur du Front National qui est dans la provocation quelquefois, ou un antifa qui est dans la provocation, quand les gens baissent le masque, ils parlent de ce qu'ils vivent vraiment, ils parlent de leurs expériences, et ils ont des expériences qui méritent d'être écoutées. Et si on met tous ces gens-là ensemble, on commence à comprendre mieux la complexité de la réalité. Parce que la réalité, elle n'est pas simple. La réalité, c'est pas que tous les migrants sont des pauvres réfugiés qui viennent de pays en guerre. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas que tous les migrants sont des terroristes. La réalité, elle est complexe. Et on ne saura quoi faire avec la réalité que quand on la connaîtra. Et pour la connaître, il faut de l'intelligence collective. C'est-à-dire, il faut réunir les gens qui pensent pas pareil, qui sont pour le moment des ennemis, mais qui ont besoin de se parler et de se parler pour comprendre mieux la réalité. Donc, moi, je suis dans un pays qui va très mal, un pays qui va vers la guerre civile, la France. Oui, je pense que c'est un pays de, je sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est un pays qui va vers la guerre civile. Bon. Mais c'est un pays qui va dans la guerre civile parce que vous avez des camps opposés qui se diabolisent et qui se disent l'autre, il est mauvais, l'autre, il ne dit pas la vérité. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il faut arriver à réunir les gens, à les réconcilier pour que, ensemble, ils trouvent des solutions à cette situation dans laquelle nous vivons, qui est une situation qui nous rend fous.
Oui, ma question n'est pas très différente de ce qui vient d'être dit, mais c'était, est-ce que vous pouvez aller un peu plus concrètement, en fait, comment vous procédez ? Est-ce que ça a à voir avec la communication non violente, avec les cercles restauratifs là, du Brésil
de Non, je suis tout à fait contre la communication non violente. Je connais bien la communication non violente. J'ai même écrit la préface du livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les yeux... les... » Ouais, c'est ça. J'écris la préface. Donc, je connais Marshall Rosenberg. C'était un ami, malheureusement décédé maintenant, après une longue maladie. Mais je ne travaille pas du tout comme en communication non violente. En communication non violente, on vous donne une manière de communiquer avec l'autre. On vous apprend à communiquer. Et je crois que les êtres humains n'ont pas besoin d'apprendre à communiquer. Les êtres humains savent communiquer. Simplement, ils ont des obstacles qui les empêchent de communiquer avec les autres. Ils ont des peurs, ils ont des haines, des méfiances, etc., qui viennent de leurs blessures, qui viennent de la société, qui viennent de leur vie. Et ce qu'on fait en thérapie sociale, c'est le contraire de la communication non violente, même si les objectifs sont les mêmes. On fait le contraire, c'est-à-dire, au lieu de dire aux gens comment ils doivent être, comment ils doivent communiquer avec les autres, c'est eux-mêmes qui le découvrent en voyant ce qui les empêche d'aimer, ce qui les empêche de communiquer, ce qui les empêche de coopérer avec les autres. C'est tout à fait une autre méthode. C'est pas une méthode ennemie. L'objectif est le même. Mais ce que j'ai remarqué avec la communication non violente, c'est que ça fabrique des êtres faux. Ça fabrique des gens qui, comme disait Marshall Rosenberg lui-même, c'est des gens qui sont des chacals déguisés en girafes. Parce qu'ils ont le langage de la... Si vous connaissez la communication non violente, vous savez ce que je veux dire. Ils ont le langage de la bonne communication, mais à l'intérieur, ils ne sont pas guéris de la violence et de la haine. Ils ne sont pas guéris.
Oui, et alors donc, concrètement,
ce que je pense,
vous faites quoi alors? Si vous ne faites pas de CNV, vous faites comment?
Bah, c'est ce que je viens d'expliquer.
Oui, mais concrètement, vous mettez les gens ensemble. Déjà, il faut qu'ils soient d'accord pour venir ensemble.
Non. Je travaille pas avec des gens qui sont d'accord pour être ensemble. Je travaille avec des gens qui ont besoin, qui viennent pas pour se réconcilier. Ils viennent parce qu'ils ont un problème à régler. Par exemple, l'exemple que j'ai pris du quartier, ils n'avaient pas envie d'être ensemble, les Turcs, les Arabes et les gens du Front National, ils n'avaient pas envie d'être ensemble. Donc je leur dis pas, venez, on va faire ami. Non, je vais les voir, je leur explique l'intérêt qu'ils ont à faire ça, parce qu'il y a un problème à régler. Le problème à régler, c'est quoi ? Le problème à régler, c'est la vie du quartier. Le problème à régler, c'est la délinquance, c'est les trafics de drogue, c'est les seringues dans les jardins publics, c'est le fait que les femmes n'osent pas se promener seules, c'est le fait que les enfants, on ne peut pas laisser les enfants dans les jardins publics, il y a trop de dangers. Et ça, c'est quelque chose qui fait souffrir les familles arabes, les familles maghrébines, les familles turques, les familles qui votent Front National. Ces gens-là ont le même problème. Au Rwanda, c'est la même chose. Au Rwanda, je ne dis pas aux gens, venez vous pardonner, venez vous réconcilier. C'est des gens qui doivent vivre ensemble. Ils doivent créer des coopératives ensemble. Ils doivent discuter des dédommagements, parce qu'il y a des dédommagements. Ils sont obligés, ils sortent de prison, mais ils doivent dédommager les gens, parce que pendant que les hommes allaient tuer, les femmes allaient piller les maisons. Donc il y a eu des vols, il y a eu des pillages. Et donc ils doivent discuter ensemble de comment ils vont faire pour être indemnisés. Et là, ils viennent parce qu'ils ont tous intérêt à venir. Voyez ? Donc, je travaille avec des gens. Si je vais travailler à Dresde dans un quartier, je ne dis pas « Venez vous réconcilier avec les racistes. » Ou « Venez vous réconcilier avec les naïfs qui croient qu'il faut accueillir tous les immigrés du monde entier. » Je ne dis pas ça. Je leur dis « Voilà, il y a un quartier où il y a plein de problèmes, où il va y avoir un foyer qui va s'installer avec 3000 migrants. De toute façon, c'est décidé, parce que les migrants sont là, ils vont être là. Venez parler de cette situation, voir comment on peut faire pour que ces migrants puissent s'intégrer sans qu'il y ait trop de dommages à la société, comment faire pour qu'il y ait pas un risque de criminalité, parce que ces migrants n'ont pas de travail. Donc il y a un risque, parce que comme vous le savez, en Allemagne, il y a 500 000 migrants qui sont partis dans la nature. Comme me le disait un des responsables de l'accueil des migrants, il me disait, mais ces migrants, ils vont vouloir faire venir leur famille. Obligatoirement, ils ne vont pas rester seuls. Ils vont faire venir leur famille. Pour faire venir leur famille, ils ont besoin d'argent. L'argent, ils l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils parlent pas l'allemand, ils vont pas avoir de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller rejoindre les milieux délinquants. Et ils vont devenir délinquants. C'est lui qui me disait ça. C'était pas un anti-migrant, c'était un pro-migrant. Il me disait, mais comment on pourrait éviter ça? Moi, je veux que les migrants soient accueillis en Allemagne. mais je vois qu'il y a des problèmes. Et donc, on réunit les gens, parce que les gens se disent, oui, bien sûr, ça ne va pas être facile. Alors, il y a les gens qui pensent, ça ne va pas être facile, parce qu'il ne faut pas accueillir les migrants. Mais les migrants, ils sont là. Donc, ils sont obligés de faire quelque chose. Parce que, si vous voulez, ce n'est pas de la politique, au sens des partis politiques. C'est de la vie quotidienne. On va vivre dans ce quartier et on va vivre avec 3000 migrants. Je travaille dans des villages autour de Dresde où il y a 600 habitants et il va y avoir 800 migrants. Donc les gens le savent et ils disent « mais il va bien falloir faire quelque chose ». Et donc là, ils ont une motivation.
Oui, moi également un peu sur celui-là. Moi également un éclairage sur votre processus. Donc vous travaillez en gros sur identifier le problème commun entre toutes les personnes que vous réunissez, enfin qui viennent.
Qu'est-ce qui fait souffrir les gens?
Voilà, d'accord.
Parce que je travaille pas avec des gens qui profitent de la société, de la situation. Je travaillerai pas avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ou des gens comme ça. Je travaille avec des gens qui souffrent. Alors, ils souffrent et ils n'ont pas les mêmes explications sur leur souffrance. Mais ils souffrent. Et ils ont envie que ça change. Et ils sont électeurs du Front National. Ils sont de gauche, de droite, d'extrême droite, etc. Ils sont turcs, ils sont arabes, ils sont espagnols, tout ce que vous voulez. C'est des gens qui souffrent. Et donc, ils ont envie que ça change.
Et du coup, en avançant dans le processus, donc vous mettez un... Vous faites en première étape ou en étape le cadre de confiance. Après, je ne vais pas voir tous les détails, mais ce qui m'intéresse, c'est quand ils sont en conflit, quelle nuance vous faites entre conflit et violence? Est-ce que le fait qu'ils soient en conflit redéveloppe de la violence? Comment la violence, finalement, est-ce qu'elle diminue par le conflit? Enfin voilà, c'est un petit peu là-dessus que ça m'intéresse.
C'est expliqué dans le livre, mais c'est un processus. C'est-à-dire que ils sont effectivement dans des relations de violence. Relations de violence, c'est-à-dire qu'ils diabolisent les autres, ou ils les méprisent, ou ils les haïssent. Et ils viennent, et la première chose, si vous voulez, dans le processus, c'est qu'ils fassent confiance à l'intervenant. C'est-à-dire qu'ils se disent, ce type-là, les gens, par exemple, de Pegida à Dresde, ou les gens antiracistes, ils doivent se dire, ce type-là, il va nous aider dans nos difficultés. Donc, le premier travail à faire, ça vient aussi de ce que je suis, de ce que je développe, et de ce que j'enseigne aussi à des gens, c'est il faut que les gens fassent confiance dans la personne qui va les aider. Un peu comme quand vous allez chez le médecin, vous avez un médecin, vous vous dites tout de suite, voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment m'aider. Ou alors, au contraire, vous vous dites, il pense qu'à faire du fric. Voilà. Donc, il faut que les gens fassent confiance. Après, il y a tout un travail pour que les gens soient motivés et voient l'intérêt de faire ce travail. Donc, il y a tout un travail qui peut durer un certain temps, ça dépend des possibilités, mais c'est tout un travail. Ensuite, il y a un travail de rapprochement entre les gens pour que les gens... Pardon, merci. Pour que les gens apprennent à se connaître, apprennent à parler des peurs qu'ils ont, des méfiances qu'ils ont les uns par rapport aux autres, etc. C'est tout un travail de confiance qui se fait dans le groupe. Et après, les gens commencent à parler de leur souffrance. Et quand ils parlent de leur souffrance, ils sont écoutés par les autres. Les autres se disent, je croyais que c'était... que cet électeur du Front National, c'était uniquement un salaud de connard. En fait, je m'aperçois, c'est un type qui souffre aussi, comme moi, de la vie qu'on a aujourd'hui. Et j'écoute ses souffrances. Et le type en question, au lieu de dire « Ouais, vous, les Arabes, vous êtes ceci, cela », il parle vraiment de sa vie, de sa souffrance. Et les gens commencent à voir qu'en face d'eux, ils ont aussi des gens qui sont des êtres humains qui souffrent. Et ensuite, dans le processus, je vais un peu vite, mais pour expliquer rapidement, ensuite, les gens commencent à voir, non pas ce que les autres font de mal, mais ce qu'eux font de mal. Leur propre groupe ou leur propre personne. Par exemple, si j'ai une rencontre entre des habitants d'un quartier de banlieue et des policiers, le moment décisif, c'est quand les policiers disent « Oui, c'est vrai, chez nous, au commissariat, il y a quand même pas mal de racisme. Oui, c'est vrai, on dit des trucs sur les Arabes, par exemple, qu'on ne devrait pas dire. Oui, c'est vrai, nous, les policiers de la BAC, quand on passe dans un quartier, on voit des jeunes qui n'ont rien fait, on leur fait ça, comme ça. On ne devrait pas faire ça. » Et quand les habitants du quartier, ils entendent que les policiers se remettent en question, que les policiers expliquent ce qu'ils font de mal, eux aussi font pareil. Ils disent « Oui, mais c'est vrai, nous aussi, etc. » Bon. Et à ce moment-là, les gens commencent à prendre la responsabilité de ce qu'ils font, qui ne contribuent pas au problème, et ils commencent à parler de la réalité. Et en parlant ensemble de la réalité, on commence tous ensemble à devenir plus intelligents, à comprendre mieux ce qui se passe dans ce quartier, où sont les vrais problèmes. Que le vrai problème, c'est pas les Arabes contre le Front National, que les vrais problèmes, ils sont ailleurs. C'est des problèmes de l'école, c'est des problèmes de quartier, c'est des problèmes avec les élus, c'est des problèmes avec les entreprises. Et ils commencent à en parler, etc. Et à ce moment-là, si on a la possibilité de faire le même travail avec des élus, avec des responsables d'institutions, etc., tout le monde commence, ça devient une vraie vie démocratique. Une vraie vie démocratique où tout le monde réfléchit, se remet en cause et on cherche des solutions.
Question.
Est-ce qu'il y a encore... on a encore de la place pour... une ou deux questions. Mais sinon, il y a le livre là-bas.
Est-ce que les élus acceptent de rentrer dans le jeu que vous décrivez, dans la thérapie que vous proposez, en fait?
C'est très variable. Très variable. Si vous voulez, c'est très difficile pour des élus, à cause du système politique, où vous devez pas montrer vos... Si vous voulez, dans ce travail, les gens montrent leurs faiblesses. Ils montrent leurs difficultés, etc. Pour des élus, c'est très difficile à cause du système dans lequel nous vivons. Et montrer ses faiblesses, dire ce qu'on a fait de mal, etc., ça peut être dangereux parce que ça peut être exploité par les partis d'opposition. J'avais une fois avec une mairie, je peux dire d'ailleurs la mairie du Havre. Il y avait un grand projet de créer une police municipale. Et j'ai dit aux nouveaux élus de la ville, qui étaient des gens de droite, qui succédaient à une mairie communiste. Je leur ai dit, écoutez, moi je vous propose un projet, et dans ce projet, on va essayer de faire une police municipale au service des habitants, où on va créer des groupes avec des habitants des quartiers, avec des policiers nationaux, des policiers municipaux, avec votre participation à vous les élus, etc. Et tout ce travail va aboutir à créer une police municipale qui soit vraiment efficace et au service de tous les habitants. Génial. Ils ont dit oui, tout de suite. Puis après, ils ont réfléchi. Ils ont dit oui, mais il y a le Front National qui est en embuscade. Ils vont dire la mairie, les élus du Havre, ils demandent à des groupes de mères maghrébines et de jeunes arabes des quartiers de dire comment il faut qu'on fasse la police municipale. Et le Front National va dire, ben écoutez, si vous ne savez pas comment faire une police municipale, nous on sait, nous au Front National, voilà. Et donc ils ont abandonné le projet. Et ça, c'est une grande difficulté, mais je dirais, on n'est pas tout puissant. Si déjà beaucoup de gens commencent à bouger, et quelques élus aussi, moi par exemple, j'ai commencé un travail passionnant avec un élu, qui était le maire d'une ville où il y a eu les émeutes en 2005, Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois. Et on a commencé à faire plein de projets ensemble, et malheureusement, il est décédé. Mais c'était un homme remarquable. Et donc, moi, je me suis aperçu que parmi les élus, parmi les responsables des institutions, il y a des gens très chouettes. Mais le problème, c'est que tout le monde est pris dans un système, et un système qui favorise pas forcément la vie démocratique. Donc c'est pas toujours très facile. Oui. Dernière question, je crois que c'est la dernière.
Ah, je suis le début.
C'était la première
et la fin.
Et la dernière.
Alors, donc, vous entendant, je me suis enrichi, merci.
Merci.
Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais il va falloir qu'on structure un petit peu, il faut qu'on ait les moyens.
Oui.
Parce qu'on devient une force, finalement, par votre message, et de nous demander un petit peu comment qu'on peut se constituer pour faire de la paix. On a besoin d'être en paix pour vivre ensemble meilleur, etc. Moi, je vous dis bravo pour le travail que vous menez. Et à un moment donné, là, juste bien avant que je prenne le micro, je me suis dit, le livre que vous avez fait, on devrait le faire lire à toute l'autorité française. Puisque donc, tous ces gens qui sont venus en France, j'ai presque envie de vous dire, qui sont-ils pour vous? Qui sont-ils pour le français moyen? Il n'a rien demandé, le français qui vit ici en France. Il y a des responsables, etc. Et ils n'ont pas mérité ce qu'on leur fait subir. On leur montre du doigt, on les tabasse sur place. Il y a des gens qui prennent un fusil comme pour faire la chasse à l'homme là-bas sur place. Et c'est inhumain. Mais ce n'est pas toute la France. Il y a une belle France.
Oui, oui. Et il faut se battre. Je veux dire, le travail de thérapie sociale, c'est un travail pour apprendre à se battre. Mais se battre sans haine. C'est ça l'idée, c'est arriver à se battre sans haine. Mais on a besoin de se battre parce qu'il y a des combats à mener à tous les niveaux. Merci beaucoup.